Voilà, ce soir, je vous invite à aller dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous lirons la deuxième partie du verset 10. Romains 12, deuxième partie du verset 10. Le titre, message de ce soir, ce sont les conséquences de l'honneur, les conséquences de l'honneur selon le royaume de Dieu. Romains 12, 10, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et un des grands théologiens évangéliques français, Alfred Kuhn, a proposé cette version de ce verset, honorez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres. Il y a quelques mois, c'était juste avant l'été, nous avions déjà étudié l'importance et la place de l'honneur, du concept de l'honneur dans le royaume de Dieu. Nous avons vu que non seulement dans nos relations avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec notre prochain, nous devons vivre dans un esprit d'honneur, en commençant par nos parents, c'est un commandement, honore ton père et ta mère, honorer notre famille et honorer aussi nos frères et sœurs dans la chair ou dans la foi. Et puis, il est question aussi d'honorer dans la Bible, je pense à l'Épître aux Hébreux, d'honorer ceux qui nous dirigent dans l'Église, et puis honorer aussi ceux qui nous dirigent dans le monde, notamment les autorités politiques ou judiciaires. Il est question aussi dans la parole de Dieu d'honorer ceux qui sont dans une situation moins honorable que nous. Je parle de situation, je ne parle pas de personne, d'accord ? Il n'est pas question de dire qu'il y a des personnes qui sont moins honorables que nous, mais il y a des personnes qui sont dans des situations moins honorifiques, on va le dire comme ça. Donc des personnes dans des situations de faiblesse. Pour un responsable, ce sont ses employés, mais c'est aussi des personnes malades, des personnes pauvres matériellement parlant, ou nous l'avons entendu parler, prier tout à l'heure aussi pour les réfugiés, les immigrés. Et puis nous avons aussi souligné l'importance de s'honorer soi-même, en honorant ce que nous sommes en Christ, des nouvelles créatures, des fils et des filles du royaume de Dieu, et aussi en ne laissant pas les réactions des autres ou les circonstances nous dicter notre propre comportement. Et là, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, et ça demande beaucoup d'apprentissage et beaucoup de travail pour vraiment apprendre à garder et à se maintenir dans l'honneur, quelles que soient les situations, mais on en est tous là. Maintenant, d'une manière générale, dans notre culture française, il faut bien reconnaître que nous sommes assez avares en parole, en actes et en marques d'honneur réciproque. Ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Par exemple, nos amis américains sont souvent prêts à s'honorer les uns les autres par des paroles d'encouragement. C'est très, très spontané dans leur culture. En Asie, pour avoir côtoyé notamment des Coréens, mais on le voit aussi avec les Japonais et dans d'autres pays, là je ne serai pas précisé tout, mais on observe qu'on s'honore les uns les autres par des marques d'honneur. C'est très important de marquer l'honneur vis-à-vis des gestes de marque d'honneur vis-à-vis les uns des autres. Mais dans notre pays, ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent. Je l'ai déjà dit, pour nous, l'honneur, c'est presque synonyme de flatterie. Donc, on n'est pas très à l'aise avec ce genre de choses. Et puis en plus, à côté de cela, le langage religieux met en avant l'humilité. En fait, comprenez l'abaissement. Quand on parle d'humilité, on parle souvent d'abaissement. Et on se dit qu'il vaut mieux alors tenir un frère ou une sœur dans l'abaissement que de l'honorer. Cela contribue à sa sanctification, paraît-il. Mais ce n'est pas le langage de l'Évangile ni de Dieu qui nous demande de nous honorer les uns les autres, c'est-à-dire de nous considérer, de nous valoriser, de nous estimer. Estimer qui vient du grec timé, bartimé, bartimé qui voulait dire, eh bien, le fils de celui qui était honoré, timé, veut dire estimé. Mécadonné, donc estimé. Et certaines traductions de ce verset de Romains 12, 10 disent les choses ainsi, rivaliser d'estime réciproque. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Alors, je voudrais vous montrer aujourd'hui que la mise en pratique de l'honneur dans l'esprit du royaume de Dieu a des conséquences directes. J'ai dit, le titre de ce message sont les conséquences de l'honneur. Des conséquences dans l'Église, dans notre famille et dans notre entourage. Et j'en aborderai trois ce soir. L'honneur crée la confiance, qui amène la sécurité et la liberté. Parlons d'abord de la confiance. En nous honorant les uns les autres dans l'Église, dans nos familles, et même dans notre environnement professionnel, nous bâtissons un climat de confiance dans lequel même les plus humbles sont respectés, considérés et élevés. Mais il n'est pas toujours facile de faire confiance à quelqu'un, particulièrement une personne qui ne vous traite pas avec honneur, voire sans considération ou même peut-être avec mépris. Pourtant, la sagesse du royaume de Dieu nous dit, en toutes circonstances, avec toute personne, l'honneur doit être accordé, même si la personne ou la situation ne reçoit pas l'honneur que nous voulons lui apporter. Que les gens soient hypocrites ou même méchants dans leur conduite ne devrait pas déterminer si oui ou non nous décidons de pratiquer l'honneur. L'honneur, selon Jésus, ne dépend pas de l'autre ou de la circonstance. Je ne devrais donc pas laisser l'hypocrisie, les mauvaises attitudes ou paroles de telle ou telle personne venir asservir mes pensées, mes émotions, au point de nuire à ma paix intérieure et à ma communion avec Dieu. Si la relation avec Dieu est une relation d'honneur, mais si je laisse le déshonneur à cause de l'hypocrisie, de la méchanceté, de toutes sortes de circonstances venir entrer dans mon cœur, j'altère donc automatiquement la relation d'honneur que j'ai avec le Seigneur. En demeurant dans l'honneur en Jésus-Christ, même dans l'adversité, je reste donc libre. Si professionnellement, vous êtes dans une position de leadership, vous arrive les uns les autres d'avoir des responsabilités, vous êtes chef de groupe, vous êtes un entrepreneur, vous êtes peut-être un enseignant, un cadre dans l'administration ou autre, et il est particulièrement important que vous vous comportiez honorablement à l'égard des autres. Et c'est encore plus indispensable lorsque vous êtes responsable dans l'Église ou bien sûr parent dans la famille. Car en tant que leader, vous êtes responsable de la qualité des relations dans votre sphère d'influence. Vous devez donc être, par la grâce du Seigneur et au mieux de ce qu'on peut, le modèle de ce que vous attendez des autres. Vous êtes donc l'initiateur et le promoteur de la culture qui se développe ainsi autour de vous. Parce que vous êtes en situation de responsabilité. Et ainsi, un leader ne peut pas s'attendre à être honoré s'il ne sait pas honorer les autres en premier. Mais quand le leader prend soin d'honorer les personnes qui dépendent de lui, c'est-à-dire les respectant, les considérant, les valorisant dans leur capacité, les récompensant, il contribue directement au développement d'un climat de confiance réciproque qui se répand alors dans toute l'organisation, que ce soit l'entreprise, l'association, la famille ou l'Église. Ainsi, parce que les gens savent que quelles que soient les situations, même défavorables, quelles que soient les situations, ils seront traités avec respect et dignité, même en cas de réprimande, ils évolueront alors dans une atmosphère de sécurité. L'honneur crée donc, au sein d'un groupe, d'une église, de la famille, la confiance dans la sécurité. L'honneur amène la confiance Et cette confiance a pour seconde conséquence la sécurité. Là où il n'y a pas d'honneur, il ne peut y avoir de confiance. L'honneur permet la confiance. Et quand celle-ci est établie, les gens se sentent en sécurité. Parce qu'ils savent qu'ils évoluent dans un environnement qui ne cherche pas à les contrôler, mais à les valoriser. Et alors, dans le cas de l'Église, quand tes frères et sœurs viennent à l'Église, ils ne sont pas inquiets de savoir comment ils vont être accueillis, ou comment le pasteur ou les anciens ou des frères et sœurs leur parleront à cette réunion ou ce dimanche-là, même s'ils ont été peut-être absents ou s'il y a eu quelques problèmes. Ils sont en sécurité parce qu'ils évoluent dans un milieu de confiance et d'honneur. Cependant, beaucoup de responsables d'entreprise, d'administration, voire même dans la famille, voire même dans l'Église, cherchent à créer un environnement sécurisé en le balisant par des règles, des interdits, voire même des vexations. Ça vous est peut-être arrivé. Ouais, je ne sais pas s'il faut dire amen. C'est même certainement un environnement sécurisant pour eux. On balise le terrain. Mais cette sécurité du leader s'obtient en substituant l'honneur et la confiance par le contrôle, voire même l'oppression. Alors si pour le responsable c'est un environnement sécurisé, parce que c'est lui-même qui l'a balisé et qui l'a ainsi fait, pour les autres ce n'est pas un environnement sécurisant mais contraignant, voire même étouffant, éreintant ou angoissant. Et allez, je sais que plusieurs dans votre lieu de travail, vous êtes peut-être dans ce climat d'angoisse. Bien sûr, ce qui est grave, c'est quand c'est à l'église que l'on voit ces choses, ou même dans une famille. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est parce que nous évoluons alors dans un environnement dans lequel nous ne sommes pas honorés, mais dans lequel nous évoluons avec méfiance. Quand il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de confiance et il n'y a pas de sécurité. Et ce sont la crainte et le contrôle qui dominent. Et ça peut dégénérer dans des foires d'empoigne. Rappelez-vous ce que Paul écrit dans les Galates, ces trois verbes que j'ai souvent cités, que vous retrouverez dans l'Épître aux Galates si vous recherchez. Il parlait dans cette église d'un état où les uns les autres s'épiaient, se mordaient, se dévoraient. Ça, ce n'est pas dans le monde, c'était dans une église. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'honneur réciproque, mais parce qu'il y avait un esprit de règlement. C'était la loi qui était là, on s'épiait, on regardait comment les uns les autres faisaient, et on n'était pas dans une idée d'élever l'autre, d'encourager l'autre, mais au contraire de vouloir dominer sur l'autre. Et quand on est dans cet esprit de domination, forcément, ça crée des antagonismes. Alors je le disais, cet état d'esprit est particulier à la société française, où nous n'avons que très peu développé la pratique de l'honneur. Et j'ai réécrit ça tout à l'heure en mettant cette note, je crois plutôt que nous avons abandonné la pratique de l'honneur. Nous l'avons abandonné, il me semble, en deux étapes. D'abord, la nuit du 4 août 1789, il faudra bien que je vérifie, par l'abolition des privilèges liés à l'ancienne monarchie. Et du coup, déjà, dans notre culture, l'honneur était perçu comme quelque chose qui devait être donné obligatoirement à des gens qui étaient supérieurs. Et le coup de grâce qui a été donné à la pratique de l'honneur dans notre société, c'est mai 68. Le printemps 1968 a déclaré l'honneur comme une valeur bourgeoise, rétrograde et réactionnaire. Et depuis bientôt donc 50 ans, l'honneur n'a plus de place dans notre société. Et ça se voit ne serait-ce que dans l'éducation des enfants, où les instituteurs, les professeurs n'arrivent plus à être honorés dans leur classe. Et des enfants qui grandissent comme ça sans pratique de l'honneur dans l'école, cela vient du fait même qu'il n'y a pas une pratique de l'honneur dans la famille. Et si elle n'est pas dans la famille, c'est parce qu'elle n'est pas véhiculée comme une valeur importante dans la société. L'honneur est perçu comme un espèce de rapport de force. Et ça, c'est une sémantique marxiste-léniniste. Donc, l'honneur est bourgeois. On s'en débarrasse. Et après, on est là dans une idée où on est tous au même niveau. Mais la conséquence de ce fait, c'est que, ayant abandonné l'honneur, nous nous sommes habitués dans notre pays aux rapports de force, aux conflits, aux critiques. Et notre pays est un pays qui ne peut pas évoluer si ce n'est que par des révolutions, si ce n'est que par des démonstrations de force. Et les étrangers, la presse nous le fait bien comprendre, la presse étrangère, quand on la lit, ils sont toujours étonnés de la dureté de notre pays. Un pays où il n'est pas possible de se parler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur réciproque, ne serait-ce qu'entre les responsables économiques et les leaders syndicaux. Il n'y a pas cet honneur, c'est perdu. Et on est dans une société donc de dureté, la dureté de notre système scolaire. On est dans un système scolaire qui est très dur avec nos enfants. La dureté de la vie professionnelle. La dureté de la vie publique et de la vie politique en particulier. Ça se voit notamment dans le domaine de la formation. Au début, je me disais, je pourrais citer en exemple l'apprentissage. Pour avoir des fois entendu ce que certains apprentis dans certains domaines des métiers de bouche supportent, on se dit qu'il y a une absence totale de la pratique de l'honneur dans ces métiers. Mais la semaine dernière, j'ai été interpellé par un livre qui vient de sortir sur le milieu hospitalier. Et une étude montre que le climat général souvent délétère et oppressif que subissent nombre d'étudiants en médecine et beaucoup d'étudiants infirmiers et infirmières. Et même on pense chez nous que c'est bien de les briser, de les brimer, parce que ça les forme. Et ça a des conséquences très lourdes. L'effondrement moral, l'absentéisme, le turnover, mauvaise qualité de travail, tension hiérarchique. Pourquoi ? Parce que dès la base, on n'inculque pas l'esprit d'encouragement, l'esprit de valorisation, l'esprit d'honneur, mais l'esprit de conflit qui se reproduit de promotion en promotion en promotion. Dans l'Église, l'Église française souffre de la culture française. Et nous manquons véritablement dans nos assemblées aussi de cette pratique de l'honneur. Ça commence d'abord avec le pasteur, dans son ministère, dans son style de leadership, dans sa manière de gérer les relations, et il arrive souvent que des pasteurs aient des carences dans la pratique de l'honneur, et au lieu d'amener la sécurité par la confiance et l'honneur, ils cherchent à la créer par des règlements et des vexations. Mais encore une fois, c'est très culturel. On n'aura pas appris à honorer, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été honorés. Aux États-Unis, le second dimanche d'octobre est appelé Pastor Appreciation Day, ça veut dire le jour de l'appréciation des pasteurs. Et c'est une espèce de grande fête nationale dans toutes les églises, Et des fois, ça se passe même tout le long du mois d'octobre. Où ils ont retenu que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Timothée 5, 17, au sujet des anciens, qu'ils doivent recevoir un double honneur. Et cette fête est célébrée dans les églises, ce n'est pas forcément par de l'argent, mais par de la reconnaissance des marques et des actes d'honneur. Ils donnent donc cette appréciation, cet honneur à leurs responsables, qui eux-mêmes le rendent. Et il y a donc comme cela, le but c'est d'avoir cette atmosphère, cette culture, cette pratique de confiance, de sécurité, à travers la pratique de l'honneur réciproque. Et ça est vrai, mais c'est vrai pour toute personne en situation de leadership, pas simplement dans une église, mais aussi dans une entreprise, dans une administration ou quelque autre groupe. Quand le leader ne sait pas honorer les gens comme il convient, les gens ne l'honorent pas en retour. Du coup, le leader est dans une situation de crainte, de peur. Et pour se sécuriser, il contrôle. Et en voulant contrôler pour sécuriser, il empêche en fait le développement d'un climat de confiance réciproque et de sécurité. Alors, quel est le problème avec ces pasteurs, ces frères, ces sœurs, ces leaders? C'est que souvent, ils n'ont pas appris à s'honorer eux-mêmes en Jésus. Ils n'ont pas appris à s'honorer dans leur identité devant le Seigneur, à s'honorer dans leur capacité, leurs dons, ce qu'ils ont reçu de Dieu pour servir. Et ces leaders, ces chefs d'entreprise chrétiens, ces pasteurs, ces anciens, mais aussi peut-être ce père, cette mère, n'est pas en confiance, n'est pas en sécurité avec lui-même devant le Saint-Esprit et donc a fortiori devant les autres. Et c'est ainsi qu'on entre dans une espèce de spirale descendante de peur, de frustration et de contrôle, qui ne peut à un moment s'arrêter que par le pardon réciproque. Et cette décision de dire, nous n'allons plus nous dominer, mais nous allons commencer à nous encourager. Peut-être en passant d'abord par le fait de se supporter, de s'encourager, de se valoriser, de s'estimer. Et ça, bien sûr, c'est important dans le couple, c'est important dans la famille, que les parents puissent estimer leurs enfants. Comment voulez-vous que vos enfants vous honorent, vous estiment, si vous ne les estimez pas d'abord? Comment voulez-vous que vos employés ou vos collègues vous estiment si vous ne les estimez pas d'abord? Mais si vous êtes toujours dans un rapport de force avec eux, ils vous renverront ce rapport de force. Et si eux veulent vous manifester cette force, à vous de ne pas la renvoyer, mais toujours d'honorer. Il est important donc que les responsables des églises, les leaders chrétiens et les chrétiens fonctionnent à l'égard d'eux-mêmes dans l'honneur en Christ. Si j'estime, valorise, considère, honore ce que Christ m'a confié, ce que je suis en Christ, alors je vais marcher dans la confiance, au-delà de mes craintes, de mes limites. La peur m'a servi, la peur me domine, la peur m'écrase, l'honneur me libère. Et alors je serai en sécurité avec moi-même. Et je communiquerai ce sentiment tout autour. Lorsque je suis en paix en moi-même, sécurité avec moi-même, je sais qui je suis dans le Seigneur, je sais ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je n'ai pas reçu du Seigneur, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mon travail, mais lorsque je sais où j'en suis, alors je suis en paix, je suis en sécurité. Et je peux vraiment vivre et partager ça avec mon prochain. Une église et des responsables qui fonctionnent selon l'honneur évoluent donc dans un climat de confiance et de sécurité. Quand il n'y a pas d'honneur dans une église, dans une famille, dans une entreprise, il ne peut y avoir ni confiance ni sécurité. Et alors, il arrive ce qui se passait dans l'épître aux Galates, on s'épie les uns les autres, jusqu'à se mordre les uns les autres, et peut-être même se dévorer les uns les autres. L'honneur permet donc la confiance, et quand celle-ci est établie, les gens se sentent en sécurité. Et se développe alors un grand sentiment de liberté, parce que la pratique de l'honneur, c'est celle du Saint-Esprit. Et elle permet donc à la liberté de régner. N'est-il pas écrit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté? Le Saint-Esprit est un Dieu d'honneur, parce que Dieu est un Dieu d'honneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est l'honneur et là est la liberté. Il y a donc un grand lien entre l'honneur et la liberté. Là où il n'y a pas l'honneur, là où il y a la domination, là où il y a cette sécurisation imposée aux autres, il ne peut pas y avoir la liberté de Christ. Cette liberté n'est donc possible que si nous fonctionnons ensemble dans l'honneur, vous et moi, parents et enfants. Mais aussi, bien sûr, dans l'entreprise, c'est peut-être beaucoup plus difficile lorsqu'on est avec des gens qui n'ont peut-être pas, n'ont pas la sensibilité chrétienne, mais en tout cas, à nous déjà de la manifester, surtout si vous êtes dans une situation de responsabilité. C'est l'apôtre Paul qui parle de la considération fraternelle. L'honneur paraît être un mot parfois très élevé. Considérer, considération fraternelle. Savoir se considérer les uns les autres d'une manière réciproque. La liberté est vraiment une des plus grandes valeurs pour l'humanité. Et je crois que la liberté, c'est le don de Dieu. La liberté ne vient pas de Satan, n'est-ce pas? Elle ne peut pas venir de Satan. C'est celui qui a servi. Dieu est celui qui libère, qui affranchit. La liberté est un don de Dieu. Et Dieu nous a créés libres. Et ça veut dire donc que les hommes peuvent faire tant ce qui est bien que ce qui est mal. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il gratifié de cette libre volonté? Parce que la libre volonté, même si elle rend possible le mal, est aussi le seul moyen qui permet l'amour, la bonté ou la joie. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de joie. Un monde de robots, sans émotion, sans liberté, sans capacité de pouvoir et produire quelque chose de même, serait un monde où les gens seraient donc incapables d'être bons, d'aimer, d'être joyeux. Et Dieu ne cherche pas un amour qui vient d'un cœur servile, mais d'un amour qui est offert. Et le culte que nous offrons à Dieu, c'est un culte libre. Dieu nous a délivrés de la crainte, n'est-ce pas? L'amour parfait bannit la crainte. Et nous sommes dans cette liberté devant le Seigneur. Et c'est vrai qu'à cause de cela, Dieu a pris le risque de nous donner la libre volonté de nous rendre libres, afin que nous puissions aimer. Cependant, la liberté nous met mal à l'aise dans l'Église. Et très vite, quand on parle de liberté, on en arrive à 1 Pierre 2,16 qui nous dit « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté ». C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de baliser la liberté parce que la liberté nous fait peur. Elle nous fait peur parce que quelque part, elle nous expose à nos faiblesses. Et beaucoup de chrétiens, et même des églises, tout en disant qu'ils appartiennent à la nouvelle alliance, fonctionnent en fait dans les principes de l'ancienne alliance. Ils fonctionnent dans le principe du « fais, ne fais pas ». Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et le principe de l'ancienne alliance n'est pas un principe de liberté, c'est un principe de loi. Et si des frères et sœurs, tout en étant en Jésus-Christ et dans les promesses de la nouvelle alliance, fonctionnent dans l'esprit de l'ancienne alliance, c'est parce que quelque part, ça les rassure devant Dieu. Ils se disent libres, oui, mais en fait, ils s'astreignent à des règles désuètes et abolies en Jésus-Christ parce qu'ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Et tout de suite, ce qui leur vient à la bouche, c'est attention à trop de liberté. Ah, si on va dans ce sens, la seule chose qu'on aura gagnée, c'est de libérer la chair de l'homme dans l'Église et donc de faire entrer le monde dans l'Église. En fait, ils confondent volontairement, sciemment, liberté et dissolution. Ils en font un raccourci. La liberté, c'est un danger, c'est la dissolution, c'est la chair. Allez, on remballe tout ça. Comme un jour, j'ai entendu quelqu'un qui à travers un pasteur, qui disait, là-haut, ça sera la grâce, sur la terre, c'est la loi. Évidemment que non. J'ai besoin de relire le Nouveau Testament, ce brave frère. La véritable liberté en Christ naît de l'environnement de confiance et de sécurité que crée la pratique de l'honneur. L'honneur a donc trois conséquences. Il amène la confiance qui engendre la sécurité et qui permet le développement de la liberté. Parce que dans un tel environnement d'honneur, de confiance, de sécurité, nous pouvons évoluer de manière libre. On ne se sent pas épié. Personne n'est prêt à vous mordre à la moindre divergence d'opinion. Au contraire, dans un environnement où l'honneur est valorisé, la confiance et la sécurité existent, les gens vous honorent, non, parce que vous leur ressemblez ou que vous allez dans leur sens. Mais ils vous honorent pour ce que vous êtes en tant qu'être humain et encore plus en tant que frère ou sœur en Jésus-Christ. Je n'honore pas quelqu'un parce qu'il me ressemble, parce qu'il dit comme moi, parce qu'il fait la même chose que moi. J'honore mon frère, ma sœur, parce que Christ vit en lui. Nous croyons les mêmes choses, mais peut-être que nous avons des différences d'opinion. Mais je ne suis pas là pour le juger dans les différences d'opinion, je suis là pour honorer mon frère et ma sœur. La liberté abat les murs, les règles, et elle brise les jougs. Est-ce à dire pour autant qu'à cause de cette liberté, tout est permis ? C'est le raccourci que certains font. Ce à quoi l'apôtre Paul a répondu, j'y reviens dans quelques instants, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans le monde du contrôle, de la peur, les limites sont définies, bornées par des règles strictes. Tu fais, tu ne fais pas. Et pour beaucoup de chrétiens, ça leur convient. Et dans beaucoup de familles, ça marche comme ça. Et dans beaucoup d'entreprises, d'administrations, c'est ainsi qu'on fonctionne. Dans l'alliance de la liberté en Jésus-Christ, les limites sont définies par l'honneur. Autrement dit, ce ne sont pas des règles. Évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'une règle, c'est une borne. Ah, tu n'iras pas plus loin. L'honneur, ça se définit pas comme ça. C'est pas une règle. Sinon, on retombe dans l'ancienne alliance. Mais l'honneur, c'est une qualité de relation que l'on veut préserver. Qualité de relation avec Dieu, qualité de relation avec mon prochain, qualité de relation avec moi-même. Paul écrit donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, 1 Corinthiens 6:12. En Christ, je suis libre. Ok ? Mais à cause du sens de l'honneur qu'il a restauré en moi, je suis capable de discerner ce qui ne m'est pas utile et qui pourrait même m'asservir et me déshonorer, et ça s'appelle le péché. Et je ne fais pas ça parce que, ayant cette sensibilité à l'honneur, non, je ne ferai pas ça parce que ça déshonore le temple du Saint-Esprit que je suis. Ma famille est le temple du Saint-Esprit, l'Église est le temple du Saint-Esprit. Là où je suis dans le monde, je suis le temple du Saint-Esprit et je ne fais pas ces choses parce que Dieu vit en moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pour moi-même, dans ma relation avec Dieu, mais aussi par prévenance réciproque. Paul nous le dit régulièrement dans les Corinthiens, dans les Romains, « Je ne veux rien faire, même si je suis libre, mais je ne veux rien faire, même si ce n'est pas un péché. Même si ma conscience me dit, tu peux le faire. Oui, mais si je me rends compte que ce que je fais risque de troubler mon frère, et d'amener une situation de déshonneur, je veux m'arrêter et réfléchir à ça et prendre garde à cela. » La puissance de l'honneur me met donc en garde. Ce ne sont pas des règles écrites. Mais écoutez-moi bien. L'honneur, selon la Nouvelle Alliance, c'est un témoignage intérieur puissant. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est cette voix-là. Et lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, véritablement, il nous mettra en garde. Il nous dira, ce chemin-là, tu peux, mais fais attention. Réfléchis. Et on peut engager un dialogue avec lui. Des fois, on ne veut pas l'entendre, c'est vrai. On met sa voix de côté. On dira, bon, on reviendra sur ça. Mais ce qui est clair, c'est que ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui produit l'honneur protège donc la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, tant que je suis en communion avec le Saint-Esprit, je suis dans la liberté. Mais si je ne suis plus en communion avec lui, parce que je suis allé au-delà de ce qu'il m'a dit, je ne suis plus dans la liberté. Je crois être libre, mais en fait, je m'asservis. Je m'asservis à ma chair, je m'asservis à la tentation, au tentateur. L'honneur protège donc la liberté, elle protège ma liberté et elle protège celle de mon prochain parce que par honneur, je ne serai pas une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur. En conclusion, je dirais donc que sous couvert d'attitudes religieuses et puis à cause d'un environnement culturel qui est le nôtre, trop souvent nous avons banni l'honneur, la considération fraternelle, l'estime de soi et des autres. Nous l'avons vu comme une valeur faible. Et du coup, dans un environnement où l'honneur est absent, c'est l'abaissement, le contrôle et la peur qui prolifèrent. Et les gens se cachent, ils ont peur. Peur d'être mordu par des paroles blessantes. Je crois que les morsures des paroles blessantes sont parfois plus dures que les morsures des dents du chien. Et ils s'éteignent à cause de cela. Bien sûr, ça c'est le plus loin, se mordre. Mais il est évident qu'il y a des étapes avant. Mais trop souvent, encore une fois, à cause de notre culture, à la fois chrétienne, catholique romaine, tout cet héritage qui est là, cette idée d'être le plus petit possible, mais pas d'une manière qui plaît à Christ, mais d'une manière religieuse pour gagner quelque chose, pour prouver quelque chose. Mais aussi ce qui est propre à notre culture française, où finalement on a considéré que honorer quelqu'un, c'était lui donner un avantage sur nous. Et comme on ne supporte pas que quelqu'un soit au-dessus de nous et que généralement tous ceux qui sont au-dessus de nous, chez nous, on n'a qu'une envie, c'est leur couper la tête, n'est-ce pas ? C'est propre à notre culture. Du coup, on ne veut plus honorer les gens. Sauf ceux qui m'honorent. Et encore, qui m'honorent, c'est bien, mais que je les honore. Mais donc, on est là, on en est dans cette situation. Et il faut que cette culture qui valorise le déshonneur ou qui se moque du déshonneur, qui a abandonné le déshonneur, quitte nos familles, quitte nos vies, quitte l'Église. Nous ne devons pas craindre de nous honorer, de nous respecter, ça c'est le minimum, et même d'aller plus loin, de nous valoriser les uns les autres. C'est le langage de Dieu, C'est le langage de l'Évangile. C'est le langage de la Nouvelle Alliance. Et ce langage produit la confiance, la sécurité et la liberté. Et ceci est vrai dans l'Église, mais c'est aussi vrai dans le couple. Que l'épouse honore son époux et que l'époux honore son épouse. Et ensemble, ils vont s'élever. Et vous savez quoi? En s'élevant ensemble, ils élèvent le couple. Et ils s'élèvent l'un et l'autre. C'est vrai pour le couple. Mais à vrai dire, c'est vrai aussi avec nos frères et sœurs dans l'Église ou même des fois sur notre lieu de travail. Trop souvent, pour monter, on essaye de passer sur les autres. Mais si nous apprenons à nous élever les uns les autres, et nous irons encore plus loin. Bien, Timothée. Il y a longtemps que je n'ai pas fait. Je l'avais fait une fois avec les leaders. On va faire un bras de fer, tu te rappelles? On va essayer de voir qui marque le plus de points. D'accord?
Coupez la caméra.
Alors, on va voir qui arrive, hein, d'accord? Qui arrive? Ok. On peut y aller comme ça. Maintenant, je vous propose une autre méthode. Non. Qui marque le plus de points? Si, tous les deux. Cette image, elle est tout simple. Mais elle nous montre quand on sait s'honorer, se valoriser, se respecter, on gagne plus qu'en se combattant les uns les autres. Apprenons à vivre dans cet état d'esprit. Que l'on soit en position de responsabilité ou non. Et finalement, Paul va encore plus loin en insistant sur ces choses. Je relis ces autres traductions de ce passage, de ce verset, où... Certains ont traduit ainsi « rivaliser d'estime réciproque ». Faites passer les uns les autres avant vous. Oui, rivaliser d'estime réciproque. Honorez-vous, n'hésitez pas, honorez-vous. Nous devons apprendre à être zélés, à nous honorer les uns les autres, à nous bénir, à nous encourager. Même lorsque nous sommes différents dans nos opinions, dans nos façons de faire. L'honneur, c'est vraiment le cadre favorable pour l'Église, pour le couple, pour la famille et même pour notre monde. Mais il n'en veut pas. C'est le cadre favorable pour l'épanouissement de l'amour et de la foi. Alors mettons-le abondamment en pratique. Même lorsque cela semble être à notre défaveur. Et je vous dis que nous ne manquerons pas d'en récolter les fruits qui sont des fruits de justice. Honorons-nous les uns les autres. Vous savez, je finis encore avec cette image, merveilleuse image, mais de Jésus. D'abord, à la croix, Jésus a brisé le déshonneur. Il a pris sur lui notre déshonneur, parce qu'il est mort dans une situation de déshonneur, nu, cloué à la croix. La croix, c'était le châtiment réservé aux traîtres. Il est mort là, lui, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Il est mort dans une situation de déshonneur, de malédiction. Mais ce n'était pas son déshonneur, ce n'était pas sa malédiction, c'était mon déshonneur. Et puis, je me rappelle quelques heures avant la croix, dans la chambre haute avec les disciples. Lui, le Fils de Dieu, s'est habillé comme le domestique. en se saignant d'une serviette. Et il s'est mis aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Quel geste d'honneur. Il voulait les honorer. Lui a fait cela. Et il nous invite à le pratiquer et à le faire à notre tour. À travers nos paroles, à travers nos actes, à travers des marques d'honneur qui seront des démonstrations d'amour, qui amèneront la confiance, la sécurité et la liberté. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur sera. Amen. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu d'honneur. Et si nous, nous avons failli dans l'honneur et nous avons même peut-être sombré dans le déshonneur, nous déshonorant nous-mêmes dans le péché, tu as pris ce déshonneur à la croix. Mais Seigneur, nous avons besoin d'être entièrement renouvelés et, je dirais, purifiés de l'esprit de déshonneur dans lequel nous avons longtemps vécu, particulièrement dans notre pays. Et nous avons besoin de réapprendre à honorer sans craindre. L'honneur n'est pas une valeur faible. L'honneur, ce n'est pas une valeur désuète, ce n'est pas une valeur du passé, ce n'est pas une valeur ringarde. L'honneur, c'est une valeur éternelle du royaume de Dieu. Tu as toujours été, Jésus, un homme d'honneur sur cette terre, par ta parole, par tes actions. Nul n'aurait pu trouver en toi une trace de déshonneur. Et je te prie, Seigneur, de nous apprendre cela, afin que, tout d'abord, nous-mêmes, nous grandissions en confiance, en sécurité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que nous sommes, et donc en liberté. Une liberté, une confiance, une sécurité qui se retrouveront dans nos familles. Apprends-nous à nous honorer les uns les autres dans nos familles. Que le mari honore sa femme, que la femme, l'épouse, honore son mari. Que les parents honorent leurs enfants, que leurs enfants, les enfants honorent leurs parents. Apprends-nous à nous honorer dans l'Église, entre frères et sœurs, entre responsables, conducteurs, frères. Nous voulons être dans cet état d'esprit. Et Seigneur, si nous sommes imparfaits dans cela, notre désir c'est de progresser. Et d'apprendre à nous pardonner, d'apprendre à nous supporter, à nous encourager, à nous bénir, à nous apprécier. Seigneur, nous ne voulons pas de gens qui soient sans honneur au milieu de nous, mais que ceux qui sont les plus faibles puissent être honorés comme il convient. Et Seigneur, apprends-nous aussi à être des pacificateurs dans le monde où tu nous envoies. Des fils du royaume de paix, c'est-à-dire des fils du Dieu d'honneur, des fils et des filles du Dieu d'honneur dans notre entreprise, dans l'administration où nous sommes. Même si nous voyons le déshonneur dans les actes, les paroles, même si c'est à notre défaveur que nous puissions toujours être dans cet esprit d'honneur, afin d'être des témoins de la liberté de Christ, de la gloire de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que l'honneur soit une valeur forte de la culture de cette Église. Que nous puissions nous honorer, même lorsque quelqu'un a péché au milieu de nous. Que nous ne soyons pas là pour l'écraser, mais que nous puissions avec honneur le reprendre. C'est-à-dire ne point l'asservir, mais vouloir le relever, le guérir et toujours l'aimer. Seigneur, merci de nous apprendre ces valeurs. Nous en avons bien besoin, parce que ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et ma prière, c'est que cette Église cultive ensuite un esprit de confiance mutuelle, de considération fraternelle, un esprit de sécurité, que chacun qui vient dans cette Église se sente en sécurité. Il sait qu'il ne sera pas écrasé, dominé, mais il sait qu'il pourra toujours trouver, même lorsqu'il n'est pas bien, lorsqu'il y a des moments de difficulté dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, dans sa vie familiale, même lorsqu'il y a des moments où il sera comme arrêté, il puisse trouver ici de l'amour, de la considération Et puis je prie pour que nous puissions rester dans un esprit de liberté. Parce que c'est à cette condition-là que tu seras présent au Saint-Esprit au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons nous honorer les uns les autres. Et même, nous voulons rivaliser d'honneur les uns en l'égard des autres. Seigneur, que ta grâce soit avec nous dans ces choses. Pardonne-nous nos manques de déshonneur. Que nous puissions ensemble nous encourager, mon Dieu. Amen.